ainsi, nous commençons dans une cuisine. Ce qui est peut-être un lieu bien étrange pour parler des espaces infinis. Ou au contraire, n'est-ce pas un lieu étrange? Et peut-être que dans un monde auquel tout ressemble à tout, les circonvolutions des étoiles ressemblent pas mal aux involutions des entrailles humaines.
Radio n'étant pas télévision, nous ne pouvons pas offrir à l'auditeur ce que nous aurions offert aux téléspectateurs, c'est-à-dire des images.
Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans Transhistorien, votre émission d'histoire. Et bienvenue plus particulièrement dans Un Café avec Adèle Charrier. Adèle, bonjour.
Bonjour Mathilde.
Alors déjà, chers auditeurs, je vous remercie pour votre enthousiasme pour Un Café avec. Beaucoup d'entre vous m'ont dit apprécier l'émission, m'ont même dit vouloir participer. Alors si vous êtes étudiant en histoire et que vous souhaitez participer, n'hésitez pas à faire comme Adèle, à me supplier jour et nuit jusqu'au jour où j'accepte finalement de vous recevoir près de ma machine à café.
Le prix d'une supplication sans faille.
Voilà, et vous aurez quand même en prime... un café gratuit. Aujourd'hui, Adèle a choisi un thé à la menthe très très sucré, ce que je considère comme une hérésie. Mais on va pas commencer à débattre là-dessus,
non,
Adèle.
Nous n'allons pas commencer, non.
Alors Adèle, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos auditeurs?
Je suis historien, malgré moi, en master 2 d'histoire ancienne. Je suis spécialisé surtout dans l'histoire des représentations. Et plus particulièrement en ce qui concerne les mythes et légendes et religions de l'Antiquité gréco-orientale.
Alors moi, je suis toujours assez intéressée par comment on en arrive à son sujet, à sa période. Et moi, il me semble, on me chuchote à l'oreillette que tu es arrivé par là, par les lettres classiques.
En fait, j'ai toujours voulu faire de l'histoire, toujours. Surtout dans l'Antiquité, dans le domaine des religions, mythes et légendes, parce que j'adore ça, tout ce qui est contes, légendes et mythes. Et je me suis dit que le seul moyen de pouvoir faire ça, c'est évidemment d'accéder à ses sources. Le grand problème d'un historien, ce sont toujours ses sources. Et je m'étais dit qu'il était hors de question que je passe à travers des intermédiaires et que je serve un peu d'esclave à des traductions. Donc du coup, j'ai préféré vouloir attaquer mes sources moi-même et je suis passé par une longue période de carnage à travers les lettres classiques, effectivement.
Oui, c'est toujours... on l'a souligné plusieurs fois, en particulier avec Adrien la dernière fois, que c'est toujours très très important de maîtriser les langues de ses sources. Alors avant d'arriver plus spécifiquement à tes sources, est-ce qu'on peut parler un petit peu de tes recherches finalement? Tu es en M2.
Oui, alors... L'année dernière, j'avais travaillé sur un sujet qui consistait à étudier la représentation d'une figure héroïque, alors celle d'Achille. Et cette figure, qui est l'une des plus anciennes, du coup, est aussi l'une des plus, des plus adorées, si on peut dire. Il était difficile d'étudier une telle figure qui avait un tel impact, mais qui restait aussi mystérieuse. Le peuple qui se cache derrière cette figure, ne serait-ce que par le nom même d'Achille, qui était un nom en fait, dont on ne connaît quasiment rien. Et donc tout le mystère qui régnait autour de cette figure était pour moi une raison de plus de devoir l'étudier. Donc la guerre de Troie, toute la population qui était derrière, donc on ne connaissait rien. Et l'intérêt était pour moi en fait, de montrer que dans cette période qu'on appelait ces siècles obscurs dans laquelle naît Achille, et Achille représentait bien plus qu'une simple figure, mais était une sorte de pierre de touche, un point d'ancrage qui permettait de comprendre les mutations d'un siècle d'une série de siècles que l'on disait auparavant décadents, en fait.
Et quel genre de source, justement, tu vas employer? Parce qu'il me semble qu'il y a peut-être... Alors, je ne suis pas antiquisante, chers auditeurs, vous allez peut-être l'entendre. Alors, il me semble qu'il y a peut-être un certain paradoxe entre l'omniprésence de cette figure et la difficulté, finalement, de trouver des sources pour aller plus loin, peut-être, mieux. Tu emploies des sources littéraires, j'imagine?
Alors, c'est là tout le problème, en fait. C'est qu'on a... Et en fait, le problème des sources, c'est que je traîne une période qui est la fin du XIIe, ce sont les siècles obscurs. Aucune source littéraire avant l'Iliade, que l'on date à peu près à 750 avant Jésus-Christ, donc c'est hyper difficile. Mais l'archéologie naissante a tellement évolué que cela a permis d'exhumer un ensemble de sources matérielles. Des sources iconographiques, des inscriptions, des tombes, des cimetières, des villages entiers ont pu être découverts, des sanctuaires d'ailleurs.
Je suis ravie que tu parles un peu d'archéologie parce que c'est justement quelque chose qu'on a très peu eu l'occasion de traiter dans cette émission parce que bien sûr on a parlé de beaucoup d'histoire médiévale et il existe toute une branche de l'archéologie plutôt médiévale, mais bon, c'est évidemment dans des recherches telles que les tiennes que ça a le plus d'importance. Alors tu penses quels sont les rapports qu'on peut entretenir en tant qu'historien avec l'archéologie, parce que c'est une toute autre discipline.
Bah, déjà, le premier tort est de dire que cela va avoir beaucoup plus d'importance dans ma matière. À mon sens, c'est une grosse erreur parce que l'archéologie.
Cours d'histoire antique avec Adèle Charrier.
Non, je ne t'en veux pas, puisque je pense que l'archéologie, en fait, de toute façon, par définition, l'archéologie, c'est ce qui traite de tout ce qui est ancien. Et j'ai envie de dire, on pourrait même faire de l'archéologie avec un ensemble de sources qui sont de l'époque moderne, voire même contemporaine. Si on veut. Après tout, le fait d'exhumer, par exemple, des anciennes douilles et tout ça, ça relève d'une pratique matérielle qui est la même que celle de l'archéologie. Et l'intérêt, en fait, le rapport que l'histoire peut entretenir avec l'archéologie, je crois que c'était la deuxième question, c'est ça ?
Ouais.
C'est qu'il y a un gros conflit entre historiens et archéologues, hein, que les archéologues ont l'avantage et l'inconvénient d'être une matière très scientifique, qui n'a rien à voir avec le domaine des sciences humaines. Et à l'inverse, les sciences humaines, elles vont traiter des choses davantage des textes littéraires. L'idée, c'est qu'un historien de l'Antiquité, d'abord, se sert des textes littéraires, enfin, des sources textuelles, et ensuite peut se servir des sources iconographiques. L'archéologue, lui, c'est la dernière chose qu'il va utiliser. Et si l'histoire se dépasse ce problème du texte, puisqu'il est trop rare dans les... comment dire, dans les sciences de l'Antiquité, alors là, il peut faire un bond en avant, et c'est ce qui a permis, entre autres, de desservir l'histoire. Exemple, les siècles obscurs ont été vus comme une période de décadence, et une période de, comment dire, de chute des civilisations mycéniennes. L'archéologie a permis de rendre compte que c'était une période d'évolution et de mutation, et en fait, de changement entre deux populations. C'est simplement un changement de regard, mais ça me rappelle singulièrement la querelle ancienne entre historien et géographe.
J'aime beaucoup le fait que tu parles de ces rapports entre l'histoire et la géographie. Tu me tends sur un plateau d'argent une très belle transition, parce que je voulais parler de ton expérience de l'enseignement dans le secondaire, dont tu m'as un petit peu parlé. Comment est-ce que tu envisages l'enseignement ? Qu'est-ce que cette expérience t'a appris ?
Effectivement, quand j'étais en M1, j'ai enseigné en tant que contractuel en lycée et en BTS. Dans 2 heures par semaine, je ne te cache pas que c'était assez éprouvant, mais c'était rigolo et franchement, c'est très formateur. En fait, cela permet aussi d'évoluer même dans la recherche, parce que j'ai toujours été convaincu que recherche et enseignement vont de pair. Et le fait, comment dire, de s'attarder à comprendre l'autre, à vouloir transmettre quelque chose, nous permet d'avoir un travail d'introspection sur nos propres concepts. Et c'est à partir du moment où on les comprend véritablement bien qu'on peut les transmettre.
Et alors, comment t'envisages un peu la suite ? Est-ce que ça t'a conforté dans l'idée que tu destinais à l'enseignement, ou est-ce que finalement ça a remis les choses en question ?
Je peux parler franchement ?
On est là pour ça.
Super. L'enseignement est une voie que j'adore. Vraiment, être dans ma classe, c'est un relief, si on veut. Mais à partir du moment où je mets les pieds dans la salle des profs ou que je me confronte à l'administration, c'est une horreur. Le système éducatif, je vais dire franchement, non.
C'est étrange, parce qu'il me semble que beaucoup de gens ont tendance à dire j'aime la recherche, mais ce qui est dur finalement dans le métier d'enseignant, c'est ce contact avec les élèves. Ça me surprend. Et finalement, ça me réjouit un peu aussi d'entendre quand je suis avec mes élèves, je suis bien. Il est ailleurs le problème.
J'ai toujours eu un rapport avec mes élèves parce que j'ai toujours voulu les écouter. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que tu ferais si tu avais un prof tel que toi en face de toi ? Et c'est la question qu'à mon avis, on doit tout se poser.
Ouais.
Le problème est plutôt dans... Je vais pas utiliser un discours de vieux débile en disant « Oh, c'est le système ». C'est pas tellement système, c'est le fait que on ne reconnaît pas l'enseignant à travers sa mission, on le reconnaît derrière un statut. Et d'obéir au code de la fonction publique. Quelqu'un qui fait n'importe quoi en cours peut être titularisé tant qu'il reste fonctionnaire comme il le faut. Celui qui ne sera pas fonctionnaire, qui n'obéira pas au code tel qu'on lui demande, subir certains cours, etc., l'ESP, etc., lui risque de ne pas être titularisé, même s'il fait du bon travail.
Alors on a déjà parlé de beaucoup de choses, et il me semble que c'est aussi quelque chose d'intéressant avec toi. J'ai l'impression que tu t'engages dans énormément de choses, sur énormément de fronts. On n'aura pas tout couvert aujourd'hui, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton engagement associatif dans l'école ? C'est pas toujours quelque chose dont j'ai eu l'occasion de parler ici.
Oula, et donc j'adore vraiment le cinéma, donc je m'étais mis à champ libre. Par la suite, on m'a proposé un poste au BDE, j'ai accepté de rester au CAFET. Hein. On cherche toujours un poste pour le prochain BDE d'ailleurs. Et faisons notre pub comme nous le pouvons. Et l'année suivante, j'ai pris un poste à En Scène, donc une association des arts de la scène, hein, théâtre, musique, danse. Et donc effectivement, I'm quite busy in this school.
On va conclure avec la question habituelle, puisqu'on est dans une émission qui s'appelle Un café avec Adèle Charrier. Pour ou contre, Adèle, le velouté tomate basilic ?
Non, mais je vous une haine sans faille à la soupe. Donc déjà, c'est mort. Pas de velouté, aussi pour le...